Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, zéro déchet ou alors zéro fraude. Colette Castagnoli, on s'était rencontrés il y a quelques années. Et à l'époque, il y avait un projet d'incinérateur qui inquiétait beaucoup les Corses. Et vous étiez membre à l'époque d'un collectif contre l'incinération, justement. En 2010, ce projet a été abandonné. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, la situation est claire, que tout va bien, que les problèmes sont résolus en Corse ?
Pour être abandonné officiellement, il a fallu obtenir la révision du plan régional de gestion des déchets. Ça a été l'objet d'un travail d'une commission qui dépend de l'Assemblée de Corse. Et le nouveau plan a été achevé à la suite de toutes les formalités administratives pour être voté en juillet 2015. Donc il est écrit noir sur blanc dans ce plan qui est la loi en matière de déchets pour la région Corse, que tout traitement thermique est exclu, incinération, pyrolyse, toutes les méthodes qui consistent à brûler des déchets. Donc, du côté de la loi en matière de déchets en Corse, c'est exclu. Sauf que, pendant tout ce temps, la politique de réduction, de prévention et de tri de déchets pour les valoriser au sens de la matière n'ont pas été tellement mises en place. On a continué à ronronner tranquillement pour avoir un taux de valorisation. Certains disent 20%, d'autres disent 6%, donc c'est quand même très très faible. Et on est arrivé cette année à une crise des déchets, puisque la saturation des sites étant arrivée cet été au maximum. Il y a eu des blocages au niveau des régions qui avaient ces centres de stockage. On ne savait plus où mettre les déchets. Donc certains se disent, mais si on brûlait tout ça, ce serait quand même beaucoup mieux. Alors nous sommes obligés de revenir avec notre pédagogie, celle qui a permis de convaincre les habitants et les élus de la folie de choisir cette solution lorsqu'on en est encore à mélanger tous les déchets.
Mais là, il y a une situation d'urgence. Vous dites que les centres d'enfouissement sont pleins, ils débordent, on ne sait plus quoi faire des déchets. Donc, qu'est-ce qui se passe ?
Effectivement, il y a urgence et les délais pour arriver à sortir de cette situation peuvent être très longs si on commence à repenser à des solutions industrielles en aval, c'est-à-dire des usines qui feraient soi-disant le tri à notre place, mais qui sont abandonnées parce qu'elles sont même plus subventionnées par l'ADEME, sont des usines de tri mécanobiologique. Et elles prétendent remplacer les incinérateurs là où les gens ne les veulent plus en leur proposant de faire le travail à leur place. Le résultat est vraiment nul. On a un taux de valorisation très faible au niveau des matières. Et d'autre part, le compostage qui sort de ces usines donne des résultats très mauvais. Le compost est de mauvaise qualité, même s'il respecte une norme. Il n'est pas accepté par les gens qui pourraient l'utiliser. Donc il est soit enfoui, soit incinéré dans les régions où il y a un incinérateur. Donc quel est le bénéfice de faire passer les déchets dans une usine qui est en fin de chaîne, qui va valoriser peut-être 10% de ce qu'on va jeter. Donc il faut agir en amont. Et donc la mise en place d'une telle usine prendrait un certain temps, forcément, puisqu'il faut faire des appels d'offres, il faut faire des enquêtes publiques et tout ça. Par ailleurs, l'autre solution, parce qu'il n'y a pas 50 solutions en matière de déchets, si on agit toujours en aval avec des solutions industrielles, c'est l'incinération dont nous avons parlé. Ce sera encore plus long, parce qu'il va falloir à nouveau trouver un lieu où les gens vont accepter une usine qui sera construite pour 30 ou 40 ans, parce que c'est un investissement extrêmement lourd. Donc, il faut prévoir une durée d'exploitation au moins de 30 à 40 ans. Donc, une fois qu'on commence à penser à ce genre de solution, on est piégé. On est piégé par une solution industrielle qui est exploitée par des sociétés privées et qui ont tout intérêt, elles, à se garder une marge sur nos déchets, alors que la solution, elle est en amont. Et la solution en amont est beaucoup plus courte à mettre en place.
Alors ça, on va y revenir, mais restons un instant sur les incinérateurs. Est-ce que depuis le début des années 2000, il n'y a pas eu des progrès qui ont été faits, puisqu'on se souvient qu'un des problèmes qui était très souvent mis en avant, c'était le fait que des dioxines sortaient des cheminées des incinérateurs et polluaient les sols, les eaux, et qu'il y avait vraiment soupçon de maladies assez étroitement corrélée à ces incinérateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque est toujours le même ?
Le risque a été pris en compte, effectivement. Les normes ont été renforcées. On oblige les exploitants à mettre des filtres. Il faut comprendre que lorsqu'on brûle des déchets en mélange, on ne sait déjà pas ce qu'on brûle. Une poubelle dans un sac noir, c'est opaque. Tout le système fonctionne sur un système opaque de A à Z. Les déchets en mélange arrivent dans une fosse de l'incinérateur, sont pris par un énorme grappin et on met le feu. Il y a forcément de la matière organique qui est humide. Ça brûle très mal. Donc on est obligé d'avoir des matières plastiques qui vont beaucoup mieux brûler et qui sont absolument indispensables pour faire démarrer et entretenir un feu dans un incinérateur. Donc brûler en même temps des matières humides et des matières plastiques, plus des polystyrènes, plus du PVC, parce qu'il y a toutes sortes de déchets en mélange. Il y aura aussi des piles, il y aura des déchets chimiques. On va fabriquer, grâce au feu, le fameux feu purificateur, on va fabriquer des poisons qui n'existaient pas avant. On transforme des molécules chimiques et on obtient des cocktails de molécules dont on ne connaît même pas la composition parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les analyser. On est resté sur les dioxines parce que c'était effectivement extrêmement dangereux et on a dit il faut en rejeter un peu moins. Donc on va obliger à filtrer un peu mieux. Sauf qu'on n'a pas identifié toutes les dioxines. Il y a maintenant un nombre impressionnant de dioxines bromées qui sont issues de la combustion de tous les produits qui comportent des ignifugents. Donc ça, avec le phénomène de combustion, provoque des dioxines bromées et celles-là, elles ne sont pas contrôlées. Il y a d'autres polluants qu'on ne peut pas contrôler. Bon, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est dans la pratique. Parce que dans la théorie, OK, on a augmenté les normes, on contrôle. Dans la pratique, ce sont les inspecteurs de l'État qui surveillent les incinérateurs. Ils font appel à des cabinets pour contrôler, faire les analyses. Ce n'est pas fortuit. Les contrôles se font à une date précise. Je crois que c'est toujours deux fois par an. Ce n'est pas inopiné. Donc les gens vont arriver, ils sont prévenus. On va essayer de faire fonctionner l'incinérateur le mieux possible pour qu'il n'y ait pas trop de rejets polluants. Vous imaginez bien que pendant 3 jours sur 365, lorsqu'il n'y a pas le jour du contrôle, c'est peut-être pas forcément comme le jour du contrôle. Ça, c'est déjà un grand doute. Et d'autre part, effectivement, les résultats sont assez opaques. On ne sait pas, on nous publie des résultats, mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance dans ces conditions, déjà aux résultats et ensuite au fonctionnement sur toute l'année d'un incinérateur qui brûle tout en mélange ? C'est ça le problème. Si on agit en amont, on va éviter énormément de pollution. Donc c'est pour ça qu'on milite pour une action en amont.
Je sens que vous piaffez. Qu'est-ce que c'est alors, agir en amont ?
Agir en amont, c'est détourner des sites d'enfouissement, bien entendu, quand ils existent, et d'un incinérateur ou d'une usine de tri mécanobiologique, toute la partie fermentescible des déchets, c'est-à-dire ce qui se recycle très naturellement, ce sont les déchets de cuisine, qu'on appelle biodéchets ou déchets fermentescibles, tous les restes. Et par ailleurs, il y a aussi des déchets verts qui sont issus de l'entretien des jardins. Ces déchets-là ne devraient jamais arriver à l'enfouissement et jamais arriver dans un incinérateur. Ils peuvent être traités. S'ils sont écartés, mais à l'origine, il ne faut pas se dire on les met dans la poubelle et après on va les trier. Ça, ce n'est pas possible. Donc dès le départ, il faut, c'est pour ça qu'on appelle ça le tri à la source. Ça veut dire que ce n'est pas la source, ce n'est pas la fontaine. C'est la source de production des déchets. Donc dans une cuisine, c'est la source de production des déchets organiques. Si on propose aux gens d'avoir un récipient adapté qui sera équipé d'un sac compostable pour mettre toutes leurs épluchures, tout leur reste, après on peut organiser une collecte de ce type de déchets qui est très facile à traiter lorsqu'il est mis à l'écart au départ, puisqu'il ne va pas être contaminé par les autres déchets de la poubelle. Donc c'est le tri à la source des matières organiques pour produire du compost, qui sera de bonne qualité. Ça n'a rien à voir après avec un compost issu des usines de TMB.
Alors, Colette Castagnoli, on a commencé en parlant de la Corse, puisque nous sommes aujourd'hui en Corse ce matin, et puisqu'effectivement, on sait que sur une île, toutes ces questions qui sont celles de la planète entière prennent une acuité particulière du fait de la limitation du territoire. Mais c'est vrai que c'est curieux de penser que dans toute la France, toutes les politiques de tri qui ont été mises en place, sur le plan national, hein, on va ensuite venir à des particularités régionales et locales, Eh bien, ces politiques de tri, elles n'ont jamais pris en compte les déchets fermentescibles, justement. C'est assez étonnant de voir toutes les poubelles avec les couvercles jaunes, rouges, vert, bleu émailler le territoire. Il n'y a pas de poubelle pour les déchets qui donnent du compost, qui donnent de l'humus.
Effectivement, dans le système qui est pratiquement généralisé en France, on ne le prend pas en compte. Bon, il y a une raison déjà très simple. Qu'est-ce qui fait faire des bénéfices aux gens qui transportent et qui traitent les déchets? C'est le fait que tout soit facturé à la tonne. Tonne transportée ou tonne entrante. Donc, plus il y a de poids, plus il y a, puisque les matières organiques sont composées essentiellement d'eau, c'est ça qui va faire des bénéfices aux transporteurs et aux exploitants. Malheureusement, le système repose là-dessus. Donc, le fait de se dire qu'on va traiter les déchets à la source, c'est autant de manque à gagner pour les transporteurs et pour les exploitants de structures industrielles ou d'enfouissement. Donc, c'est une des premières raisons. Il y a quand même des initiatives qui sont mises en place en France, dans plusieurs régions, et ça fait partie de la stratégie zéro déchet, puisque cette stratégie est maintenant à l'œuvre dans différents continents, et pas seulement en France. Il y a aussi l'Italie, qui est une des villes pionnières en Europe. Il y a l'Espagne, Pays Basque, Catalogne. Il y a la Slovénie, le Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment la démarche qui va permettre d'économiser au niveau des coûts, et puis qui aura un impact sur la qualité de la valorisation des déchets.
Jacques Muller, on vous connaît pour votre passé de sénateur, de maire d'une commune en Alsace. Quand on écoute Colette Castagnoli et qu'elle commence sa liste des pays qui ont adopté ce tri à la source, on s'imagine qu'immédiatement, c'est l'Allemagne qui va arriver en tête et puis peut-être la Scandinavie. Allez, on va dire l'Angleterre aussi. Enfin, tous ces pays, vous savez, où ils sont tellement sérieux, tellement disciplinés. On se dit, oui, mais en France, ça, une chose pareille, c'est pas possible. Et puis non, elle nous parle de l'Italie, l'Espagne, enfin, tous ces gens un peu foufous, là, qu'on imagine assez mal en train de faire des choses aussi rationnelles. Bon, alors vous allez nous ramener dans une région où c'est quand même plus attendu, mais où, de fait, ça a pris une ampleur extraordinaire, cette histoire de tri à la source. L'Alsace, vous avez été maire, je le disais, d'une commune, Vattwiller, et de fait, c'est une région dans laquelle ces questions-là ont été prises extrêmement au sérieux.
En fait, un certain nombre de communautés de communes ont effectivement pris des dispositions qui permettent d'arriver à de bons résultats. Cela étant, malgré les apparences, malgré ce qu'on pourrait croire couramment, il y a beaucoup de collectivités en Alsace qui ne sont pas meilleures que les autres. C'est-à-dire que, de mon point de vue, la réussite d'une politique zéro déchet ne repose pas sur la mentalité, sur la culture des personnes. La communauté de communes de Tannes-Cernay, au sein de laquelle j'étais amené à travailler, regroupe 19 communes. À peu près 50 000 habitants. Elle comprend des habitants qui ne sont pas génétiquement modifiés par rapport aux Mulhousiens qui habitent 30 km à côté. Bah, les Mulhousiens sont aujourd'hui à 340 kg d'ordures résiduelles par habitant et par an d'OMR. Nous sommes à 96. Donc, très clairement, ce n'est pas une histoire de culture, de mentalité, c'est lié au dispositif qu'on met en place. Ma conviction, c'est qu'à partir du moment où les élus mettent en place un système adapté, les gens se mettent à trier. Très clairement, c'est une question de système mis en place et donc de choix politique.
Alors, un choix politique qui engage quoi, au juste? Colette Castagnoli nous disait, faire un choix industriel, c'est un choix extrêmement lourd, coûteux et qui prend énormément de temps. Est-ce à dire qu'il y a possibilité d'agir de manière plus rapide, plus légère et moins coûteuse?
Tout à fait. Le système qui a été mis en place sur notre communauté de communes repose donc sur le principe, j'allais presque dire universel du Zero Waste, qui consiste à sortir les biodéchets de la poubelle, à mettre en place une collecte systématique en porte-à-porte et pas en apport volontaire. Et troisième pilier, la facturation incitative.
Alors, on va reprendre ces trois points, ouais, justement, pour comprendre comment et pourquoi.
Alors, On dit parfois il faut faire appel à la conscience des personnes, éveiller l'esprit citoyen, l'esprit écologique, etc. Moi, je suis très pragmatique. Je constate que les gens se mettent en mouvement lorsqu'on s'adresse à un moteur qui est malheureusement celui le plus courant, c'est l'argent. C'est-à-dire, mieux tu tries, moins tu payes. C'est triste, c'est la réalité. Les territoires qui mettent en place des dispositifs dans lesquels celui qui trie est récompensé, on parle de gratification du geste de tri, eh bien ces territoires deviennent vertueux. Ça veut dire que les gens qui entrent dans le dispositif ont ensuite plaisir à le faire. Ça devient même normal, ça devient naturel. Les mêmes personnes qui, partant en vacances, par exemple en Corse, arrivent devant un système où rien n'est trié, ben les gens se sentent mal. Mais ce qui les a mis en mouvement au départ, ce n'est pas une conscience écologique, c'est le déclic financier. Et ce déclic financier peut être relativement faible, en fonction du volume de poubelles qui est choisi, si on peut rentrer dans le détail. Les écarts incitatifs peuvent être relativement modérés. Le système se met en place. Alors, ce n'est pas évidemment la seule condition. La deuxième, c'est le porte-à-porte. Alors ici, on tient compte d'un deuxième aspect de la nature humaine. C'est notre côté un peu flemme, quoi. On est prêt à faire quelque chose, mais on ne va quand même pas se compliquer la vie. C'est la raison pour laquelle l'apport volontaire, en fait, ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas bien en Corse. Il ne fonctionne non plus dans la région mulhousienne. Il fonctionne mal là où on le met en place. Pourquoi ? Parce que les personnes sont finalement obligées de faire de gros efforts, on va dire, pour participer à la dynamique. Chez nous, les personnes savent que le lundi matin, la poubelle résiduelle, donc des ordures qu'on n'a pas pu récupérer, est ramassée devant la maison. Le même jour, sont ramassés, au même moment, mais dans une poubelle différente, les biodéchets que j'ai triés pendant la semaine. Et puis, le lundi suivant, c'est toujours les biodéchets, puisqu'on les collecte en porte-à-porte, et les sacs jaunes qui contiennent tous les emballages. Donc, pour un habitant de notre communauté de communes, c'est d'une simplicité biblique. J'ai mes sacs jaunes, j'ai mes biodéchets, et j'ai la poubelle résiduelle. Je les sors au moment voulu dans la rue, avec ce phénomène finalement assez extraordinaire, c'est que le camion qui ramasse les ordures non triées, résiduelles, passe tous les 15 jours. Ici, en Corse, il passe tous les jours. Donc, en termes d'économie, de coût de transport, c'est hallucinant.
Justement, j'allais vous poser la question du coût de cette opération, parce que je me disais, est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer les choses, c'est-à-dire faire peser sur chaque habitant ce travail, au lieu que ce soit la communauté, tandis que la collectivité, elle, se retrouve à devoir assumer des coûts. Les coûts de ces différentes poubelles, du fait de devoir peser chez chacun et faire un calcul à ce point raffiné pour chaque citoyen.
En fait, ce qui met du temps, c'est d'aller rencontrer les familles, une à une, pour présenter le dispositif, en leur disant « vous avez la liberté totale de trier ou pas trier. Si vous triez, ça vous coûtera tant. Si vous ne triez pas, ça vous coûtera tant. » Et ça, c'est un moment extrêmement important parce qu'on peut rentrer dans le détail et technique et philosophique du système. L'expérience montre que les flyers ou les articles faits dans le bulletin municipal sur lesquels figurent les consignes de tri ne sont pas efficaces. À la sortie, il y a une grande partie des gens qui ne comprennent pas. Alors soit ils n'adhèrent pas au principe, ils ne font pas l'effort de réflexion, ou tout simplement ils ne comprennent pas parce que c'est un petit peu compliqué. Donc ce temps de contact est essentiel et il permet finalement d'établir une sorte de contrat. Le contrat entre la famille et la collectivité pour mettre en place un système qui permettra de maîtriser les coûts, contrairement aux deux autres systèmes. Et finalement, le choix, quel est-il ? Le choix est de savoir si on valorise, et on peut le faire, les produits qui sont dans nos poubelles. Je ne parle pas de déchets, mais de produits. Matière organique, papier, plastique, carton, etc. Ou nous laissons ces produits dans les mains des industriels.
Je voudrais juste ouvrir une parenthèse avant qu'on s'éloigne trop, Jacques Muller, parce que ça m'intéresse ce que vous dites sur le fait que les consignes écrites ne sont pas comprises. Est-ce que vous pensez que c'est lié à ce problème spécifique des déchets ou est-ce qu'on pourrait se dire plus largement que cette politique de porte-à-porte, elle porterait des fruits intéressant pour d'autres sujets, que ça soit, je sais pas, l'eau, la façon de faire son jardin sans pesticides. Enfin, il y a toutes sortes de questions qui pourraient être traitées de la sorte.
Bah, écoutez, je pense que les personnes aujourd'hui sont tellement envahies de papier et autres. Donc, un papier de plus dans la boîte aux lettres, c'est quelque chose sur lequel on va jeter un œil distrait. Il faut déjà être intéressé pour s'y plonger. Après, il suffit que ce soit un petit peu compliqué, qu'il faille faire quelques efforts pour comprendre. Bon, les gens mettent de côté, quoi. Donc, je pense que rien ne remplace la relation humaine avec des personnes formées. Chez nous, les ambassadeurs de tri sont des jeunes formés. Ce sont des services civiques ou des gens qui sont entrés dans des emplois, on va dire, qui permettent à ces jeunes d'avoir un pied à l'étrier. On a aussi parmi nos ambassadeurs des aînés qui permettent à la collectivité de bénéficier des aides publiques, donc des chômeurs longue durée de 50 ans et plus. Ben lorsque un duo comme ça va rencontrer les familles et prendre le temps de discuter, ben il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Chez certaines familles, en 10 minutes, la question sera réglée. Sur d'autres, il faudra rester une demi-heure. Mais les personnes sont libres. À la fin, vous jouez le jeu ou pas, vous assumez financièrement. Et puis, finalement, les gens se mettent à trier. Et après, ils sont fiers de trier. Lorsqu'on a mis en place la facturation incitative, quand on prend la poubelle de plus petite taille, facturée donc sur un volume de 60 litres, les personnes payent environ, disons, j'arrondis les chiffres, 200 euros à l'année, l'allocation de la poubelle 60 litres. À 80 litres, on paye 220 euros. 20 euros de plus. On pourrait se dire que finalement, l'incitation, elle est quasi nulle. 20 euros sur une année et s'ennuyer, entre guillemets, à trier. Bon. Eh bien, la réalité, c'est que ça marche parce que la taille de la poubelle devient le sujet de discussion. T'es à combien, toi ? Moi, je suis à 120. Ben, t'es pas bon. Moi, je suis descendu à 80. Comment tu fais ? Maintenant, je trie mieux, etc. Je fais gaffe au supermarché. J'achète moins de produits emballés. Donc, il y a un cercle vertueux qui se met en place. Le départ, c'était le portefeuille. Après, c'est l'être humain dans toute sa richesse. C'est le cerveau, c'est le cœur. Tout le monde se met en route.
Alors, je vous ai coupé dans votre élan tout à l'heure. Vous disiez, je ne parle pas de déchets, mais de produits. Et là, on voyait le 19e siècle ou le 18e siècle qui ressurgissait, à l'époque où, effectivement, le déchet n'existait pas et où tout était recyclable. C'est vrai qu'on a assez facilement aujourd'hui le sentiment que les matières, les matériaux qui ont été créés, qui sont tous d'origine synthétique, artificielle, sont des déchets en soi, ne sont plus des matières premières, mais sont des choses transformées et qui n'ont pas d'autre destination que la poubelle et le feu purificateur, comme disait Colette Castagnoli.
Alors, c'est effectivement l'impression qu'on peut avoir, mais quand on regarde le sujet de plus près, on se rend compte aujourd'hui qu'on est en capacité, sur des centres de tri, de valoriser pratiquement toutes les catégories de plastique, polystyrène expansé, etc. La seule question pour ces industriels, c'est d'avoir un gisement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gisement existe, eh bien, l'industriel développe sa filière, gagne de l'argent, tant mieux pour lui, mais permet aujourd'hui de réaliser des économies extraordinaires en gaz à effet de serre. Je voudrais ici tordre le cou en passant au mythe de l'incinérateur qui permet, grâce au fait de brûler des déchets, de chauffer des bâtiments, des serres, etc. Oui, c'est vrai, sauf que lorsqu'on regarde l'énergie contenu dans les produits qui sont brûlés, on est dans un bilan énergétique clairement négatif. On est dans un bilan négatif sur les gaz à effet de serre. Voilà. Donc, nous avons dans nos poubelles des produits, et la question est de les récupérer de la manière la plus intelligente. Donc, c'est le tri le plus en amont possible, à la source, et surtout sortir, on l'a dit tout à l'heure, les biodéchets, parce que tout le monde peut comprendre que les biodéchets polluent le reste du gisement. Vous n'allez pas collecter du papier pour le recycler lorsqu'il est, il est entaché de jus, puisqu'en fait, c'est ça, les biodéchets. Idem pour des plastiques qui sont sales. Donc, on peut très clairement valoriser les produits qui sont dans nos poubelles.
Je pense qu'il faut faire une précision. Là, Jacques Muller, c'est qu'on parle bien de déchets ménagers, on ne parle pas des déchets ultimes.
On est clairement ici dans la problématique des déchets ménagers, sachant que tout ce qui tourne autour des déchets industriels banals, on est dans un tout autre contexte réglementaire, puisqu'il relève de la responsabilité de ceux qui les émettent, et donc ils se débrouillent sur les marchés privés. Donc la collectivité, les élus, les impôts locaux ne sont pas là pour gérer les DIB. Ça incombe aux industriels.
Colette Castagnoli, en écoutant Jacques Muller, on s'est aperçu qu'il faut des collectivités qui s'engagent. Il faut former des jeunes qui vont aller former les gens, ce qu'on appelle les ambassadeurs du tri. Il faut donc quand même une machine qui se mette en place et en route, qui implique énormément de monde. Alors vous parliez tout à l'heure du poids que représente la solution industrielle, mais quand on est dans un territoire comme la Corse, où jusqu'à présent, c'est vous qui le disiez, rien de tout cela n'existe, comment est-ce qu'on peut mettre en route cette machine-là ?
Alors, les délais sont assez faciles à évaluer. La mise en place d'une solution Objectif zéro déchet nécessite de faire appel à des êtres humains qu'on va former. Ensuite, il y a une partie administrative. Tout ça, à l'expérience, a été fait, notamment en Alsace, et ils ont mis un an pour mettre en place ce système qui implique donc des appels d'offres, achat de nouveaux bacs, et donc travail des ambassadeurs du tri dans chaque foyer. Si on doit se diriger vers une solution industrielle, les délais seront de minimum 4 ans ou 5 ans. D'où l'urgence en Corse de trouver la meilleure solution, qui pour nous, effectivement, est la solution Objectif Zéro Déchet, puisque nous sommes arrivés au point de ne plus pouvoir traiter les déchets qui sont trop nombreux et d'envisager de les exporter. On peut penser au coût que ça va générer. Et là, il y a vraiment urgence à s'atteler le plus vite possible.
Oui, mais là, vous êtes en train de me parler de l'urgence. Je ne suis pas une élue corse. La question que je vous pose, c'est concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Là, l'urgence, elle est claire. Mais comment est-ce que... Voilà, on prend le cas de la Corse, ça pourrait être beaucoup d'autres régions en France. Hein, mais comment est-ce qu'on fait quand rien de tout cela n'existe encore ?
Alors, il y a une loi qui a été votée cet été, 2015, qui s'appelle la loi de transition énergétique et pour la croissance verte. Il y a tout un chapitre relatif aux déchets ménagers et autres déchets d'ailleurs. Et dans cette loi, il est bien expliqué, noir sur blanc, qu'il faut absolument parvenir à écarter les biodéchets pour les traiter séparément. Donc ça, c'est tout à fait nos objectifs.
Jacques Muller, j'ai l'impression que Colette Castagnoli me prend pour un élu et est en train d'essayer de m'expliquer qu'il faut absolument se lancer.
À la pratique, je reprends l'exemple tout à l'heure. Pourquoi sur Mulhouse, on ne trie pas et pourquoi sur notre territoire, on trie ? Ben, sur notre territoire, les élus ont mis en place le dispositif que je viens d'évoquer tout à l'heure, contre leur gré, contraint et forcé. Nous avions à l'époque une petite TMB.
Une petite ?
Usine de tri mécanobiologique qui fabriquait du compost dont personne ne voulait. Et ce compost était brûlé dans le petit incinérateur qui était accolé à la TMB. Cet incinérateur, on a dû le fermer puisque les normes européennes, heureusement pour la santé publique, se durcissent. Au passage, notre incinérateur polluait 70 fois la nouvelle norme européenne. Lorsque la nouvelle norme est sortie, le préfet a dit « stop, on ferme ». Donc les élus se sont retrouvés avec ce compost dont on ne savait pas quoi faire. Et très logiquement, on va faire un incinérateur propre. Logique, on continue. On s'intéresse aux déchets. Donc spontanément, culturellement, on ne s'intéresse pas à l'amont, on s'intéresse à l'aval. Et on continue à faire un incinérateur. La population s'est rebellée, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais les citoyens ont bloqué le projet. Ils ont bloqué le projet, et comme on avait tous veillé à ce qu'il n'y ait pas de comportement nimbyste, la société civile mettait des contre-propositions sur la table, en disant « faites 30 km, allez voir de l'autre côté du Rhin, en Allemagne ». Ils sont descendus à 120 kilos par habitant et par an, même dans les centres-villes. Nous, on est aussi capables de faire ça. Et quand on ramène ces calculs à l'échelle d'un département, On n'a pas besoin de l'incinérateur. Et donc, les élus n'ont pas pu faire leur incinérateur. Voilà. Donc, je dis à Colette, je dis à mes amis corses, vous êtes dans la même situation où les élus sont bloqués, ils n'ont plus le choix, les décharges sont pleines. C'est le moment de faire le bon choix. C'est le moment de faire le bon choix et de tuer la fausse piste du TMB, de continuer à verrouiller la mauvaise idée de l'incinérateur qui amènera de toute façon le système dans le mur financièrement.
Colette Castagnoli, c'est vrai qu'encore s'il y a des gens qui sont très sensibles à ces questions, cette population dont parlait Jacques Muller et qui pourrait faire basculer les choses. Et de fait, il y a déjà des initiatives qui existent ici.
Effectivement, en rencontrant des élus dans des petits territoires, nous voyons qu'ils ont réfléchi et ils sont sensibles à cette question de traitement des biodéchets, puisque ce sont des pratiques qui existaient jusqu'à il y a peu de temps. Il y a 50-60 ans, on n'avait pas besoin d'avoir recours à d'autres systèmes que de donner nos épluchures, soit les mettre dans le fond d'un terrain, soit les donner aux animaux. Donc ces pratiques sont encore présentes dans la conscience des gens et c'est très facile de le relancer. Donc dans des territoires éloignés surtout, c'est complètement idiot de transporter avec des camions des déchets humides, lourds, qui sentent mauvais, qui vont tout contaminer. Si on les garde sur place, c'est tout bénéfice au niveau des coûts, au niveau de l'environnement, au niveau de l'amélioration des sols. Voilà, donc cette conscience, elle existe en Corse et nous avons rencontré des personnes prêtes à, soit si ce sont des citoyens, à aller rencontrer leurs élus locaux de proximité pour proposer des solutions, notamment de jeunes maraîchers dans un petit village très éloigné proposent de récupérer les biodéchets du village pour nourrir d'une part les poules et ensuite il y aura du fumier et ils pourront améliorer leur sol. Sinon, dans d'autres territoires, certaines petites communes ont décidé de recruter quelqu'un pour aller informer les familles sur la façon de bien trier, sur la façon de mener un compost.
Les ambassades du tri sont enfin ouvertes en Corse.
C'est timide, mais je crois qu'elle s'est lancée. Et franchement, les élus que nous avons rencontrés ont l'air très convaincus. Il y a également, dans une petite école, un maire qui décide de mettre un poulailler dans la cour de l'école primaire. Il va convaincre les élèves, grâce aux instituteurs bien entendu, d'amener des biodéchets qui seront ainsi traités localement. Et puis peut-être que les œufs pourront repartir dans les familles. Là, c'est vraiment de la pédagogie complète sur tout le cycle naturel qui peut être mis en place. Et sinon, par ailleurs, il y a eu certaines personnes qui ont eu l'idée de traiter les biodéchets en plus grosse quantité sur des campings, dans des cantines. Et il y a là des méthodes pas très compliquées, mais un peu plus simples pour le personnel, justement, qui n'a pas toujours le temps de retourner un compost. Et donc, quelqu'un avait inventé un système de composteur rotatif, isolé. Ça peut être simplement une manivelle qui va faire tourner un tambour. S'il est isolé, il va conserver encore mieux la chaleur qui se dégage des biodéchets en train de se décomposer. Et ça va accélérer la décomposition grâce aux bactéries des déchets organiques. Et à la fin, il va sortir une matière qui ne sent déjà plus mauvais, qui a juste besoin de maturer un petit peu et ça va faciliter le compostage. Ces expériences, franchement, j'espère qu'elles vont voir le jour.
C'est assez frappant quand on vous écoute l'un et l'autre. Les populations sont en avance sur les élus. C'est bien ce que vous dites, et l'un et l'autre. Donc, qu'est-ce qui fait, selon vous, vous avez été élu vous-même, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette résistance extraordinaire, quoi, cette résistance passive, ce refus de savoir, ce refus de s'ouvrir
Je crois qu'il y a un phénomène culturel au niveau des déchets qui s'explique par deux aspects. Le premier, c'est lorsqu'on pense déchets, on pense poubelle et on pense qu'est-ce qu'on va faire de la poubelle. On la met en décharge comme autrefois ou on la brûle. Donc spontanément, les élus ne s'intéressent pas à ce qui se passe avant. On ne raisonne pas produit dans les poubelles, on dit comment on se débarrasse de la poubelle. Le feu purificateur semblant mieux, entre guillemets, pour un élu, que de l'enfouir. La deuxième raison, c'est que les élus baignent dans une culture fabriquée par les lobbies, qui ont les moyens aujourd'hui de rencontrer l'ensemble des collectivités de France et de Navarre et de faire passer un message qui est très simple. Ce message, je l'ai entendu très précisément puisque je participais à la mission d'information des déchets du Sénat qui devait sortir un rapport intitulé « Les déchets ménagers, qu'en faire après le Grenelle de l'environnement. Au passage, le rapporteur qui présidait cette mission avait décidé de sortir un rapport destiné à réhabiliter l'incinération en France, puisqu'il nous expliquait qu'un peu partout, les populations se rebellaient et qu'il fallait redonner une image. Donc, il y a des images qu'on peut véhiculer très facilement en racontant des demi-vérités. Le discours qui était tenu par les lobbyistes Veolia, Tiru et compagnie que nous avions auditionnés était très simple. En disant, messieurs les élus, on parle de tri sélectif, on parle de facturation incitative, on parle de valorisation. Ne rentrez pas dans ce dispositif, c'est trop compliqué. Les gens ne vont pas comprendre les consignes de tri, ce qui n'est pas faux, hein, si on ne se donne pas les moyens. Donc les gens ne vont pas comprendre les consignes de tri. Les gens sont naturellement flemmards, donc ils ne vont pas jouer le jeu. Vous allez vous mouiller, vous allez vous engager dans ce dispositif. Politiquement, c'est dangereux. Il y a un système qui est beaucoup plus simple. Nous, on sait faire. Vous ne demandez plus aux gens de trier. On vous met une TMB, la machine trie. Et derrière, en cas de difficulté sur le tri, on met un incinérateur. On est tranquille. En gros, ne vous ennuyez pas à gérer vous-même la question des déchets. Nous, on sait faire. Donnez-nous les clés. Alors les clés, évidemment, on l'a compris, c'est la récupération de la valeur ajoutée des produits qui sont dans nos poubelles, et c'est finalement une confiscation de la richesse dont pourraient bénéficier les contribuables.
Peut-être un mot d'explication là-dessus, Jacques Muller. En quoi est-ce que c'est une telle manne pour ces industriels ?
Mais pour les industriels, il y a d'abord les investissements qui sont réalisés, qui permettent ensuite de facturer un service avec une possibilité en parallèle de valoriser eux-mêmes les plastiques, papier, carton, métaux, etc. Donc, ils récupèrent sur les filières de tri sur une TMB et sur l'incinération, ils font de la valeur ajoutée, comme font tous les industriels, éventuellement en vendant plus la chaleur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, en fait, les élus sont confrontés finalement à un discours terriblement séduisant, en disant « vous compliquez pas la vie, nous on sait faire ». Et puis il faut quand même pas oublier qu'on vit dans une civilisation scientiste, où finalement, faites confiance à la science et les problèmes seront réglés. Vous êtes confronté à un problème de déchets, ben, la science industrielle, elle a une réponse moderne, hein, puisqu'on fait des incinérateurs propres, monsieur le maire, donc on peut y aller sans problème. Donc quand on est confronté à ce genre de discours, je pense que c'est quand même assez difficile de résister, à moins d'avoir une culture du déchet et d'expliquer à l'industriel qu'il est en train de nous raconter des salades. Je peux donner un exemple très concret. Si on veut convaincre un maire ou un président de Comcom ou un syndicat mixte de faire un incinérateur, on va lui dire « Regardez, les pays du nord de l'Europe, Suède, Norvège, etc., ils trient magnifiquement et ils ont un incinérateur derrière. » Ce qui est vrai. Sauf qu'ils oublient de dire que les systèmes de tri, de collecte, etc., ont été mis en place dès le début, et en fin de cycle, ils ont décidé de ne plus enfouir, mais de brûler. Et on met ça dans la colonne incinérateur. Sauf que ce n'est plus un incinérateur. Un incinérateur brûle une poubelle. Lorsque je brûle les derniers et ultimes produits issus du tri qui a été réalisé en amont, on a une sorte de matière première énergétique, mais qui n'a rien à voir avec une poubelle. Le maire qui est confronté à la demi-image, il trie, derrière ils ont un incinérateur, parce qu'il n'a pas les éléments de réponse, il se fait manipuler très très facilement.
Est-ce que la question de l'échelle joue dans ces problèmes de gestion des déchets ? Parce qu'on a parlé du territoire, on a parlé de la France comme si c'était quelque chose d'assez uniforme, mais il y a quand même une différence entre Paris, la capitale, et le village où on a mis un poulailler qui va donner des œufs aux enfants des maisons avoisinantes.
Le concept zéro déchet repose donc sur ces trois piliers. Biodéchets à gérer au plus proche du gisement, collecte en porte-à-porte et facturation incitative. Colette nous expliquait tout à l'heure qu'effectivement, les biodéchets en zone rurale, on peut les traiter au plus près sans aucun problème. Lorsqu'on est à Bastia ou à Ajaccio, il est évident qu'on ne traite pas les biodéchets de la même manière Et lorsque j'entends des élus corses dire « on va régler la question des biodéchets en distribuant des composteurs aux familles », à certains endroits, ça peut fonctionner. À Bastia, à Ajaccio, ça ne peut pas fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on fait comme Milan l'a fait, 10 millions d'habitants concernés, 10 millions de l'hypercentre. Eh bien, on collecte en porte-à-porte les biodéchets, comme nous l'expliquions tout à l'heure. Ces biodéchets sont amenés sur des plateformes de compostage plutôt à l'extérieur des villes. Encore qu'à Freiburg, on a vu des sites de compostage intramuros, mais sous système de pressurisé, en milieu confiné. Enfin bref, on traite à ce moment-là les biodéchets de manière, entre guillemets, industrielle, mais en les ayant collectés en porte-à-porte. C'est toujours le même concept, mais qui se décline en fait différemment. Et là, il faut être très pragmatique. C'est pour ça que lorsque j'ai fait mon petit tour de Corse, je disais toujours, ce que nous faisons sur notre communauté de communes de Tancernay, on ne va pas en faire un copier-coller sur la Corse. On le fait sur un habitat avec des deux villes-centres de 15 000 habitants, avec du rural pas dense, mais pas trop éloigné, et une certaine manière de faire. Nous, on collecte les biodéchets partout. Et on distribue des composteurs pour les familles qui le demandent. Sur la Corse, il est évident que lorsque les villages sont très éloignés, on va traiter les biodéchets au plus près. Et l'ambassadeur du tri, ça va être le maire ou l'élu. Quand il y a un village avec 20 habitants, eh bien, on est dans une grande famille. Et on traite les biodéchets comme une grande famille peut le faire chez elle, dans son jardin.
J'ai une dernière question, peut-être. Quelque chose qui m'intrigue dans la façon dont vous parlez l'un et l'autre. Vous avez souvent utilisé cette expression « zéro déchet ». Et de fait, c'est aujourd'hui le nom d'une association et d'un mouvement. Il y a la déclinaison corse, c'est « zéro frazzo », c'est ça. Alors, est-ce que c'est juste une expression, une sorte de vœu pieux, ou est-ce que ça vous apparaît comme une réalité ? Et si oui, est-ce que cette réalité peut exister en faisant l'économie d'une étape, me semble-t-il, encore plus en amont, encore plus à la source, qui serait de refuser les innombrables déchets inutiles qu'on nous oblige à acheter, qu'on nous contraint à acheter à chaque fois qu'on veut prendre un paquet de biscuits ou je ne sais quoi. Colette Castagnoli.
Effectivement, ça fait partie d'un tout. La prévention, qui consiste à ne pas produire de déchets, fait partie de ce programme. C'est une démarche qui a été initiée, vous disiez, en Corse, on l'a dénommée « zéro phrase », mais elle a été lancée d'abord aux États-Unis, là où on était dans l'hyperconsommation. Un professeur de chimie, le professeur Paul Connette, avait pris conscience d'abord du danger des incinérateurs. Et ensuite, il a compris que c'était aussi un énorme gaspillage. Donc cette façon de gérer les déchets, il l'a lancée il y a 30 ans. Et grâce à lui, il a essaimé et ça se passe maintenant en Europe, ça se passe dans différents autres pays plus loin que ça. Et la prévention fait partie, effectivement. Donc on observe, puisque nous sommes allés dans la ville de Capanori en Toscane, près de Lucca, rencontrer le prix Nobel de l'environnement, le Goldman Environmental Prize, qui a été décerné à Rossano Ercolini, un instituteur d'un petit village, donc le village de Capanori, enfin une petite ville. Et donc, dans son programme d'action pour réduire les déchets, il a créé un centre de recherche où il étudie qu'est-ce qu'il reste encore dans les poubelles résiduelles. Régulièrement, ils ouvrent des poubelles qui sont destinées à l'enfouissement pour voir si on ne peut pas encore agir un peu plus pour réduire. Il a justement, grâce à cette observation, pu contraindre des industriels qui fabriquent des capsules pour le café de peut-être trouver une autre solution pour que les capsules soient recyclables et qu'il n'y ait pas un déchet qui va aller à l'enfouissement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il a également développé les centres de réutilisation, les centres de récupération, avant d'aller traiter des déchets de déchetterie par des ossements de machines à laver, tout ça. Il a des ateliers qui vont voir si ces machines ne peuvent pas être simplement réparées. Souvent, ça tient à très peu de choses. Et elles vont être mises dans un circuit de vente pour des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter des produits neufs. Tout ça fait partie d'une prévention qui touche vraiment toute une nouvelle activité. C'est, bon, les Compagnons d'Emmaüs existent en France. Malheureusement, en Corse, ils n'existent pas. Mais il y a quand même la Croix-Rouge qui est présente. Il y a le Secours Populaire qui fait aussi ce travail. Il y a déjà de nombreuses petites initiatives. Il y a quelqu'un qui s'appelle, je crois, Installe-toi, qui récupère. On peut apporter des équipements dont on ne veut plus pour une raison ou pour une autre. Et ils vont pouvoir être remis à la disposition pour un faible montant à des personnes qui en auraient besoin.
Alors Jacques Muller, on compose avec cette société d'hyperproduction et hyperconsommation ou on se bat contre cette société?
J'allais dire, avant de se battre, ça va vous surprendre, mais il existe déjà des dispositifs votés dans les lois Grenelle de l'environnement, qui instituent la REP, la responsabilité environnementale du producteur. Le concept répond pour partie à votre question. En disant, on va mettre en place une taxation au niveau des industriels en fonction de la recyclabilité ou non du produit. Quand je vois le résultat, j'ai envie de dire, le concept existe, il n'est pas décliné à la hauteur de nos espérances. On continue de mettre des déchets plus ou moins recyclables, plutôt moins que plus. Il y a une deuxième disposition qui fonctionne en Allemagne, que j'ai essayé d'introduire lorsque j'étais au Sénat. J'y suis arrivé, mais les décrets ne sont pas sortis. Bon, passons. C'est le système selon lequel, en Allemagne, vous avez la possibilité, en faisant vos courses dans un supermarché, de déballer tous vos produits. Vous pouvez les trier sur place, puisque les bacs sont là. Mais ce n'est plus la collectivité qui gère, ce sont les hypermarchés. Le principe ici, c'est s'adapter au système, malheureusement, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, où la grande distribution domine l'industrie. Le pari qui est fait ici, c'est lorsque la grande distribution est obligée de supporter les coûts des emballages, il les répercute évidemment sur les industriels qui sont obligés de s'adapter. Alors il y a certains magasins qui le font aujourd'hui, j'allais dire spontanément, hein, qui jouent ce jeu écologique. Il y a aussi une image commerciale, bien sûr. Mais la disposition donc, que j'ai pu faire passer au Sénat à l'époque, malheureusement, ne s'applique pas. Alors ce n'est qu'une partie de la réponse à la question que vous posez. Il est évident qu'il y a une culture du réparer, réutiliser, qui précède le recyclage. Ce qui est assez étonnant, c'est que le syndicat mixte dont je parlais tout à l'heure, qui était en charge de la construction de l'incinération, continue aujourd'hui de gérer les déchets ultimes, puisqu'il y en a toujours, même lorsqu'on a bien trié. Mais en parallèle, dans les plaquettes qu'ils distribuent à la population, qui autrefois vendaient l'incinérateur, dans ces plaquettes, aujourd'hui, il n'y a que des conseils sur acheter malin, mieux consommer, consommer moins, acheter des produits moins transformés. On a l'impression de lire une plaquette écolo. Mon épouse, l'autre jour, disait « Mais il vient d'où ce papier ?» Mais c'est quoi ce syndicat mixte? Mais je lui ai expliqué, oui, c'est le syndicat qui faisait la promotion de l'incinération. Donc on a très clairement une manière de consommer différemment qui peut permettre de réduire encore plus en amont les émissions de déchets. Cela étant, Zero Waste, c'est un chemin. Notre syndicat mixte qui a mis en place ce dispositif en 2010 est aujourd'hui donc un taux de recyclage de valorisation matière, pour être bien précis, valorisation matière de 67%. Dans les territoires italiens dont parlait Colette, ils sont à 82%. Quand on prend le même chiffre sur l'île, on est à 6%. Donc effectivement, vous avez une énorme marge de progression. Mais on est sur un chemin, et un chemin, effectivement, un jour, on sera peut-être à zéro. Mais c'est une trajectoire, c'est une volonté. Mais la question de l'hyperconsommation se pose évidemment. Aujourd'hui, nos enfants se voient inoculer le virus de l'hyperconsommation dès l'âge du berceau, notamment à travers les programmes jeunesse qu'on trouve à la télévision. C'est la raison pour laquelle je me réjouis qu'une loi ait été adoptée par le Sénat il y a maintenant une bonne semaine, qui supprime la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que ce serait mieux si c'était partout. Mais c'est un premier pas intéressant. Et du coup, là, la France rapproche sa législation du Canada, de Suède, du Royaume-Uni et de l'Espagne, où ces dispositifs arrivent. Mais vous avez raison, l'hyperconsommation est le sujet probablement qu'il faudrait traiter à la racine. Mais ça, c'est un autre sujet.
Une fois n'est pas coutume, on va terminer cette émission par quelques chiffres. Je trouve que dans les histoires de déchets, ils sont particulièrement flagrants, particulièrement intéressants. Alors, lesquels est-ce que vous pourriez nous donner, Colette Castagnoli? Le poids d'une poubelle ménagère par habitant et par an, par exemple, en Corse?
En France, la moyenne donnée, c'est une moyenne, c'est environ 360 kg par habitant et par an. En Corse, les déchets sont produits à peu près de la même façon en quantité, sauf que nous avons un pic de production lié au tourisme pendant essentiellement 2 à 3 mois. Et ça augmente forcément le chiffre de production ramené au nombre d'habitants. Mais il n'est pas dû uniquement du fait des habitants, puisqu'ils consomment à peu près comme tout le monde. Et le gros problème, en dehors du pic saisonnier, qui ne peut pas être réglé facilement par les solutions industrielles, on le sait très bien, si on suréquipe en capacité de traitement, notamment des incinérateurs, on aura, pendant les 9 mois qui restent, des vides de four qui ne peuvent pas subsister, puisqu'il faut amortir cet énorme investissement. Donc, soit on fait appel à d'autres déchets qui viendront d'ailleurs, porter des déchets pour faire marcher des usines. C'est une solution pour un développement économique, mais je ne sais pas si c'est pour l'intérêt des citoyens et de leur portefeuille. Par ailleurs, l'autre problème sur nos chiffres en Corse, c'est que maintenant, comme un peu partout, les campagnes se vident, les gens se regroupent dans les villes. Les villes les plus importantes en Corse sont Bastia et Ajaccio. Et là, nous avons un gisement de déchets important. Et effectivement, c'est là qu'il faut absolument démarrer une gestion intelligente des déchets, de manière à les réduire et surtout à écarter les fameux biodéchets par une politique telle que nous l'avons décrite. Si les décideurs dans ces zones urbaines se mettent à une vraie action en direction des biodéchets, d'une tarification incitative et de pousser le recyclage en amont par un moyen adapté, c'est la collecte en porte-à-porte, là, on aura vraiment infléchi la production totale des déchets et on va limiter les centres d'enfouissement.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Chenepin, revue de web Anne Gouzon, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous!